C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Une autre histoire, c'est le nom d'un festival de contes en région centre, à Orléans, très exactement, organisé par un collectif de compagnies et d'artistes. Et c'est là que je vous emmène aujourd'hui. Nous sommes dans la loge d'un théâtre, en compagnie d'Amédée Bricolo. De qui? Ah oui, non, c'est Amédée Bricolo. Il est à la fois clown, conteur, acteur et professeur au conservatoire. C'est un grand amoureux du geste et des textes. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas l'étiquette qu'on lui colle, mais c'est d'entrer en relation avec le public et de l'amener ailleurs par la magie de la parole. Le rire soulage de la souffrance, affirme Amédée. Vous êtes dans l'émission C'est pas pour dire, pas de souffrance en vue, non. C'est la conteuse Anne Guelgaud-Duchaud qui tend le micro à Amédée Bricolo et tout va bien.
I still have a dream.
Amédée Bricolo, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est ton vrai nom, Amédée Bricolo?
Non, pas du tout. Mon vrai nom...
C'est un nom de clown.
C'est un nom de scène, un nom de clown. Quand j'ai commencé, il y a fort longtemps, j'étais un peu un amoureux des films de Fellini et les clowns, etc. de Fellini. Et donc, on avait cherché des noms un peu... qui chantent un peu à l'italienne, quoi. Et puis, Bricolo, c'était très populaire. C'est un ami qui nous a soufflé ce nom-là. Et puis après, le prénom, c'est le calendrier des postes qui, qui l'a fourni. Parce qu'en même temps, Amédée, c'est Amedeo en latin. Quoi. Et donc, voilà, depuis 75 ans.
Depuis 1975, tu t'appelles Amédée Bricolo.
Oui, et c'est un nom qui dépasse même le cadre du spectacle. Il y a même des membres de ma famille qui m'appellent Amédée. Mais je ne conteste point.
D'accord. Donc, c'est quoi ton parcours? Comment tu as toujours fait du spectacle?
Non. Quand j'étais jeune, d'abord, je suis issu d'un milieu familial où le spectacle n'existait pas. Et puis, j'étais en plus très timide. Et je sais que j'avais envie de faire ça, mais je n'avais que l'envie. Je n'avais pas les moyens, ni intellectuels, ni financiers, ni, j'allais dire, amicaux.
C'est marrant que l'envie te soit venue quand même. Tu as souvenir de quelque chose qui aurait déclenché ça?
Oui, je pense... j'étais d'une famille vraiment très très pauvre. Hein. J'ai failli me retrouver à l'orphelinat quand j'avais 8 ans, etc. Mais... une fois, une famille d'amis m'a emmené au cinéma et on est allé voir le film tiré du livre Sans famille de Hector Malo. Et l'espèce de vieux personnage avec ses chiens savants et l'enfant, tout ça, pour moi, c'était un déclenchement, quoi, une envie. Ouais. Et après, il y a eu une deuxième piqûre de... Enfin, il s'est sûrement passé beaucoup de choses entre-temps, mais j'ai eu une deuxième piqûre de rappel, si je puis dire, là, qui m'a ouvert plus vers le théâtre, c'est... je traînais, parce que j'étais quand même un traînard des rues le soir, un enfant un peu livré à lui-même, quoi. Avec un ami, on s'est retrouvé devant la porte du vieux théâtre d'Orléans, qui est maintenant abattu, quoi. Et il y avait des lumières, puis ça sonnait. C'était moins une du début du spectacle. Il y avait les sonnettes dans le temps à la porte du théâtre. Et puis, avec mon copain, on ne savait pas quoi faire. On errait dans les rues. On a regardé l'affiche comme ça. Il y avait marqué 6 personnages en quête d'auteur, Pirandello, Comédie de Bourges. Et puis, il y a une grande dame, pour moi, c'était une grande dame, très bien habillée, très classe, qui est sortie avec 2 billets, qui nous a dit, vous voulez rentrer ? Et comme des bêtaux, on a eu à peine le courage de savoir si on allait dire ni oui ni non, et nous voilà rentrés.
Oh, super.
Et c'était 6 personnages en quête d'auteur, montés par Gabriel Monet.
Ça, je sais.
Et c'était magnifique, hélas, déclenchement, je veux faire du théâtre. Mais ça ne s'est pas fait comme ça, après, l'orientation scolaire m'a désorienté. J'ai fait un BSEC comptable, un CAP d'être comptable, et puis après je suis parti pour préparer un BTS comptable. Et puis pour faire plaisir à ma vieille maman, j'ai quand même travaillé 2 ou 3 ans dans des banques ou des choses comme ça. J'ai usé de mon soi-disant savoir comptable, mais je savais que je partirais, que j'avais qu'une envie, c'était de partir pour faire du théâtre.
Travailler dans une banque, ça veut dire que du coup tu gagnais un salaire, et ça ne doit pas être simple de dire je lâche tout. Et je...
Oui, mais c'était vital. Moi, je serais mort si je n'avais pas fugué comme ça. C'était l'époque du plein emploi aussi. Il faut pas. Dans les années 70, 75, tout ça, je faisais ça, puis je trouvais du travail. Donc je trouvais un travail pendant 6 mois, puis si je trouvais un stage de théâtre ou une troupe qui voulait m'engager, je donnais ma démission. Puis après je revenais. Ailleurs, mais bon, voilà, quoi, j'ai démarré comme ça.
Donc tu as commencé par le théâtre ?
Et j'ai commencé par le théâtre de rue, l'acrobatie dramatique, les masques, la comédie dell'arte, mais j'ai appris plutôt sous forme de compagnonnage. C'est-à-dire, j'ai pas fait d'école, mais j'ai appris avec des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi. Par exemple, je peux citer des noms. Au moment du film Le Molière de Mouchkine, je faisais de l'acrobatie à la cartoucherie avec des gens du soleil. J'ai fait des petits rôles dans le film masqué, acrobatique, etc. Et puis, pendant le montage du film, avec un comédien du soleil qui était... fabuleux, qui s'appelait...
Donc c'était pas n'importe quel masque.
Jonathan Sutton, un Anglais. On a fait une troupe éphémère, on a joué 40aine de fois un spectacle de très tôt, forain, acrobatie, musique, jonglage, texte, un spectacle total. Mmh. Et on a travaillé à la méthode Théâtre du Soleil, c'est-à-dire qu'on l'a répété pendant 6 mois. Mmh. Et là, c'est ma période la plus riche de formation. Sinon, j'en ai eu d'autres, des gens qui m'ont beaucoup aidé. Jean-Claude Cotillard, le papa de Marion, qui est toujours un grand, grand pédagogue, à qui je dois beaucoup aussi. Puis il y en a d'autres, mais...
Dans un premier temps, et théâtre plutôt de très tôt, et théâtre de rue.
Théâtre mime, expression corporelle, et les textes sont venus plus tard.
Là, on est dans les années 80, 70-80.
Ouais. Mmh.
Ensuite, tu m'as dit clown.
Alors clown, oui, parce que c'est une forme très populaire. Alors,
il paraît que tu es très fort pour apporter des cadeaux.
Oui, je suis très maladroit. Je suis très maladroit aussi. Mais pourquoi clown ? Parce que c'est l'image très populaire du personnage de théâtre que j'aime bien, ce rapport au public. Mais j'ai pris très rapidement ma distance avec les clowns traditionnels. C'est-à-dire j'ai tout de suite fait le clown sans grandes chaussures, sans maquillage. Pour moi, le clown est un acteur proche du théâtre, mais dans les comédies de Shakespeare, il y avait des clowns qui n'avaient pas de grandes chaussures et qui n'avaient pas de nez rouge. Et en fait, j'ai œuvré toute ma vie à faire le clown sans toute cette imagerie d'Épinal. Alors,
qu'est-ce qui t'intéressait dans cette forme-là?
C'est le rapport au public, ouais. La convivialité, la capacité qu'on peut avoir à entrer en relation avec n'importe quel public, pas préparé. Par exemple, j'ai un spectacle de clown que j'ai joué dans 40 pays du monde, dans des pays dont je ne parle pas la langue, parce qu'il est visuel, parce que j'avais fait beaucoup d'expressions corporelles avec Cotillard. Et
tu veux dire que c'est un rapport... Qu'est-ce que tu pourrais dire du rapport particulier au public? Est-ce que, par exemple, d'une séance sur l'autre, le spectacle est le même?
Jamais.
Jamais.
Jamais, parce que le public n'est jamais le même, parce que le lieu est différent, parce que moi, je ne suis pas forcément dans la même condition mentale.
Tu veux dire que le public peut vraiment modifier ton spectacle?
Ah oui. Ah oui, oui. C'est une alchimie. Un spectacle, c'est une alchimie entre le lieu... soit un plein air, soit un théâtre à l'italienne, soit tout ce qu'on voudra, le lieu, l'audience, c'est-à-dire comment est composé le public, est-ce que c'est des familles, des adultes tout seuls, des personnes âgées ou que des enfants, enfin. Et puis moi, ma condition aussi, parce qu'au fond, on est très fragile, c'est pas une science exacte.
Mais ça, on pourrait dire ça de n'importe quel spectacle de théâtre, mais avec le clown, plus
oui, encore. Parce que le clown a beaucoup de rapport avec le spectateur. Moi, j'allais dire je branchais, c'est-à-dire je sollicitais beaucoup. Donc, il faut trouver l'angle d'attaque pour entrer en contact. Violent, c'est un peu comme la Commedia dell'arte, c'est pareil. La Commedia dell'arte, c'est, en tout cas, d'origine, c'était vraiment... c'est de la farce, quoi. C'est du rapport au public, ouais. Mais j'adore ça, oui.
C'est ce travail délicat de distance, juste...
Ouais, et pas trop, et pas trop, suffisamment. Oui. C'est-à-dire, faut aller vers lui, vers le public, et aussi le faire monter vers nous. Pour l'attirer, c'est comme si... Il y a une phrase de Kafka que j'aime bien, qui dit que le... prendre à l'hameçon. C'est qu'on doit prendre, on est comme pris à l'hameçon, c'est-à-dire que le spectateur est un peu comme le poisson qui ouvrirait la gueule. Mais j'aime bien cette image. Prendre à l'hameçon, c'est-à-dire être aspiré dans l'attention. Quoi.
Alors vous avez vu? Enfin, non, vous n'avez rien vu puisque c'est caché. J'ai tout caché. J'en ai attrapé beaucoup. Il y a du bon monde dedans. Ah oui, parce que... voilà. Moi, je fais une expérimentation. Je suis expérimentateur. Et dites, madame, voilà. Moi, j'ai une petite proposition à vous faire. Là, j'ai une très très belle collection à côté. Là, j'aimerais bien vous montrer ma petite collection. Ça vous ferait plaisir de voir ma collection, hein? Allez, dans la collection. Je chemine sur les chemins, car je sais une chose, Je sais que je ne sais pas. Alors je cherche. Je cherche à savoir tout ce que je ne sais pas. Mais comme je ne sais pas tout ce que je ne sais pas, je chemine vers le savoir. Ce qui est important, ce n'est pas le chemin, mais le cheminement. Alors ça chemine beaucoup là-dedans. Ça chemine fort beaucoup. Et j'ai été obligé de lui fabriquer une cheminée à ma tête. Le cheminement intérieur échauffe. Tenez. Ça chauffe dedans, ça chauffe. Et quelquefois, ça fume, ça fume.
Une plongée dans les archives d'Amédée Bricolo avec un extrait du spectacle Tête en l'air.
Pourquoi ?
C'est pas pour dire, Angel Goduchaud est en compagnie de Christian Massas, alias Amédée Bricolo.
Ça t'est arrivé à l'inverse d'être pris à l'hameçon par le public qui t'a attiré vers lui
Oui. Ah, mais les moments les plus beaux, c'est quand je me suis surpris à être obligé de rire. Parce qu'il y avait des spectateurs qui étaient magnifiques, quoi. Ouais.
T'as une anecdote ou...
J'ai joué en Chine populaire. Faut déjà y aller, hein. Puis j'étais un peu reçu, un peu comme voilà, dans des lieux un peu où il y avait pas mal de coopérants, des choses comme ça. Puis j'en avais un peu marre. Puis j'ai dit, trouvez-moi un vrai village chinois où il n'y a que du chinois. Faites-moi plaisir. J'ai dit ça aux organisateurs. Ils m'ont trouvé, c'était à Dayabé, B-A-Y, et ils m'ont, voilà, sur une place publique. C'était pas annoncé, c'était comme ça. La foule s'est rassemblée tout doucement, parce que j'ai sorti du matériel, tout ça, puis ça s'est dit un peu. Je ne parle pas chinois, et dans ce coin-là, ils ne parlaient même pas anglais, donc je ne pouvais pas dire « je vais faire mon spectacle en anglais ». Après, la police est arrivée pour normalement me virer, mais ils sont montés sur le toit de leur camion pour voir le spectacle, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et est arrivé un vieux paysan avec un vélo. Il a regardé un peu, il avait son vélo à la main, il était sur le côté, il a posé son vélo le long du mur, et puis il est venu jouer avec moi. Et là, je suis resté, mais comme un rond de flanc, parce qu'il a bien joué 5 minutes, on ne parlait pas parce que voilà, on n'avait pas moyen de communiquer. On communiquait visuellement. Puis à un moment donné, il m'a fait un signe, il a pris son vélo, il est reparti. Il n'est même pas resté comme spectateur, il est reparti. Et là, moi je suis resté bouche bée, mais les spectateurs aussi. Et il a été applaudi énormément. Ce truc qui tombe comme ça.
Ah, c'est beau.
Ouais, je le revois toujours. Ce monsieur.
Qu'est-ce que ça t'a... Tu pourrais dire que ça t'a appris quelque chose, ce moment-là ?
Oui, ça m'a appris que j'aime bien l'idée qu'on doit être capable d'entrer en relation, en communication avec quelqu'un qui n'est pas préparé, qui débarque comme ça, et il faut que notre forme d'art soit assez ouverte pour que les gens se sentent libres de faire ça. Mais j'ai une autre histoire, par exemple... C'est souvent à l'étranger parce que là, ça décoiffe, parce que voilà.
Toi-même, t'es dans un.
Ouais.
T'es pas en terrain.
Je suis allé jouer aux îles du Cap-Vert. Mmh. Et puis l'organisateur, c'était Centre culturel français, et il me montre, je dis, je veux voir le lieu, quoi. Puis il me montre, il m'emmène, et c'était une espèce de, comme une espèce d'arène de vachelandaise, mais tout, très petit. Et quand j'ai vu ça, c'était gradiné, ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si je me rate, ça sera de ma faute. Et j'ai tout de suite pensé. Et le mot clown était inconnu. Payacho aussi, qui est le terme espagnolisant ou portugais, d'ailleurs c'est pareil. Il n'y avait jamais eu de clown là-bas. Et à un moment donné, dans une partie de mon spectacle, j'invite quelqu'un à me taper dans le dos, enfin à jouer avec moi. Et là, il y a un gamin qui s'est carrément prononcé, qui est venu. Je le revois encore aussi, il était tout maigre, il était filigrane comme ça. Et pareil, il a joué. Je jouais avec des nez de clown, parce que je faisais un peu de magie, je crachais des nez de clown comme si j'étais malade. Tout ça. Il était capable de me provoquer, de me solliciter, tout en jouant avec un aplomb terrible. Il devait avoir 10-12 ans, quoi. Difficile pour moi, 10-12 ans, pas plus. Et à la fin, je l'ai fait revenir, puis je lui ai offert un nez de clown. Parce que c'est pareil, c'est la magie du spectacle vivant, quoi.
J'associe, à tort ou à raison, mon mariage avec la mort de mon père. Je le croyais alors et je le crois encore aujourd'hui qu'il avait demandé dans son testament qu'on me laisse la chambre que j'occupais de son vivant et qu'on m'y apporte à manger comme par le passé. Et j'ajoutais que Dieu ait son âme pour leur faire plaisir. L'assoupissement de l'idée de moi et de l'idée de ce petit résidu de vétille empoisonnante qu'on appelle le non-moi. Un jour, en sortant des WC, je trouvais la porte de ma chambre fermée à clé et mes affaires empilées devant la porte. C'est vous dire combien j'étais constipé à cette époque. Je crois que chacun s'était barricadé chez soi, l'oreille aux aguets. Puis vite, tous aux fenêtres, un peu cachés derrière le rideau, au bruit de la porte de la rue se refermant derrière moi. J'aurais dû la laisser ouverte. Et c'est les portes qui s'ouvrent, tout le monde qui sort, hommes, femmes, enfants, chacun de sa chambre, et les voix, les soupirs, les sourires, les mains, les clés dans les mains, un grand ouf, et puis rappel des mots d'ordre, si ceci, alors cela, mais si cela, alors ceci, une véritable ambiance de fête, à table, à table, à chambre, à table. Ce qu'on appelle l'amour, c'est l'exil. avec de temps en temps une carte postale du pays. Là, elle avait raison. Se soulager dans son lit, cela fait plaisir sur le moment, mais après, on est incommodé. Apportez-moi un simple vase de nuit. Dites, j'ai beaucoup aimé, enfin, assez aimé pendant assez longtemps le mot vase de nuit. Il me suspect se trouvait rassemblé ici, qu'on l'avait reçu comme des rois. Le directeur des transports devait d'ailleurs les porter dans son cœur, car il saisit lui-même d'une main la poignée de la voiture d'enfant, en levant l'autre pour encourager la troupe. On voyait tantôt talonner le dernier rang, tantôt courir le long du flanc de la colonne.
Lire une sélection d'extraits de Premier amour par Amédée Bricolo. Nous sommes à Orléans au festival Une autre histoire avec au micro de Angel Goduchot, l'acteur Amédée Bricolo.
Car l'avait trouvé par hasard.
Là, on est dans un festival, un festival de contes.
Et côté de la fenêtre, et il avait fait venir Giacomo près de lui.
Alors en fait, j'ai pris un chapitre du roman Amérique de Kafka.
Heureux au fond tous deux.
C'est un roman qu'il a écrit un peu au début.
De voyager dans ce train.
Avant le château, avant le procès.
Car il n'avait jamais voyagé aussi insouciamment.
C'est une très belle histoire. En fait, je ne suis pas rentré. J'ai un copain écrivain qui s'appelle François Bon, qui un jour m'a collé le bouquin de Kafka entre les mains. Il me dit pas beaucoup, ça c'est pour toi. Il m'a montré le chapitre. Le théâtre, ça s'appelle Le théâtre d'Oklahoma. C'est l'histoire d'un émigré qui est chassé. Je dirais moi que je suis pas très loin des conteurs et en fait je suis content de Kafka aimait beaucoup lire ses textes à des amis.
Ah oui.
C'était un grand narrateur.
Ah, d'accord.
Et il faisait rire ses amis. Et en fait, parce que nous, on n'a rien compris de Kafka.
C'est vrai que moi, j'ai l'image de Kafka comme un mec pas franchement marrant.
Oui, alors c'est une image d'Épinal. On a inventé l'adjectif kafkaïen, tout ça, et c'est terrible parce que, au fond, et ça, on le sait par son ami. Max Brod, qui a fait plein d'écrits là-dessus, Kafka était, il adorait faire des lectures quand il était en train d'écrire, quoi, des ébauches, à des amis, et tout le monde riait, lui aussi. Et donc, ce texte, le théâtre d'Oklahoma, c'est en fait une narration, et... parce que le conte, au fond, qu'est-ce que c'est hein, c'est très vague, c'est comme si on disait la musique c'est ça, ben non, la musique c'est plein de choses, ça bouge, ça évolue. Du temps de Lully, c'était le galop des chevaux qui nous avait amené des rythmes musicaux, mais voilà, ça a bougé beaucoup, et le conte, moi je dis que les conteurs, c'est un peu comme les fleurs, il y a beaucoup de variétés différentes. Et c'est ça aussi qui est beau.
Hier, c'était l'inauguration du festival et on a discuté un peu dans le hall du théâtre ici. Et puis je te disais, mais alors, t'es conteur? Et tu disais, mais je m'en fous, moi, des étiquettes.
Ah ben, je m'en fous totalement. Les définitions sont faites pour être dépassées et changées et bousculées. Voilà. La médecine a bougé, les transports en commun ont bougé, les... tout bouge et le spectacle est vivant et les conteurs, pareil, les acteurs, pareil. Moi, je pense que les définitions sont faites pour être bousculées.
Carl aperçut au coin d'une rue une affiche qui disait ceci. Sur le champ de course de Clayton, on embauchera aujourd'hui de 6h du matin à minuit pour le théâtre d'Oklahoma. Le grand théâtre d'Oklahoma vous appelle. C'est la première et la dernière fois. Si vous pensez à votre avenir, vous êtes des nôtres. Chacun est le bienvenu chez nous. Rêvez-vous de devenir artiste? Venez, notre théâtre emploie tout le monde et met chacun à sa place. Êtes-vous décidé? Nous vous félicitons, mais hâtez-vous de vous présenter avant minuit, car à minuit nous fermerons et n'ouvrirons plus jamais. Malheur à qui ne nous aura pas cru. Tout le monde debout. Et en avant pour Clayton. Il y avait bien des tas de gens devant cette affiche, mais elle n'avait pas l'air de provoquer grand enthousiasme. Il y a tant d'affiches. Il y a trop d'affiches. Et cette affiche était encore plus invraisemblable que ne le sont les affiches en général. Elle avait surtout un grand tort. Elle ne disait pas un mot du paiement. Bon, s'il avait été tant soit peu digne d'intérêt, elle n'aurait pas oublié d'en faire mention. Personne ne cherche à devenir artiste, au lieu que tout le monde demande à être payé pour son travail. Un mot pourtant séduisait Carl. L'affiche disait « Chacun est le bienvenu chez nous ». Et chacun, c'était aussi pour Carl. Tout ce qu'il avait fait jusqu'alors serait oublié complètement. Personne ne lui reprocherait. Il aurait même le droit de se présenter en vue d'une place qui n'était pas honteuse. Et c'était en public. En plus qu'on lui promettait de l'engager. Bon, Carl ne demandait rien de mieux, il ne souhaitait que de débuter dans une carrière honorable, et c'était peut-être là qu'elle l'attendait. Bon, que les emphases de l'affiche fussent menteuses, et que le théâtre d'Oklahoma ne fût qu'un petit cirque ambulant, ce qu'il y avait de sûr, c'est qu'il cherchait du personnel. Et cela suffisait à Carl.
C'était un extrait de Le Théâtre de l'Oklahoma, selon Franz Kafka, présenté lors du Festival de Contes d'Orléans, Une autre histoire, c'est pas pour dire, avec Amédée Bricolo.
François Bonte met ce texte dans les mains, et alors il s'est pas trompé, ça t'a plu?
Direct. Bon, on se connaissait, hein, il me connaissait bien.
Oui, des fois, t'as des copains qui te donnent des livres en disant « Ça, je l'ai lu, j'ai pensé à toi », puis tu lis le truc et tu dis « Bah, je comprends rien, pourquoi ?»
Non, mais François, c'est il a du flair.
Qu'est-ce que c'est alors qui t'a plu là-dedans?
Ah ben, c'est... D'abord, c'est une histoire de théâtre, ça s'appelle le théâtre d'Oklahoma. Mmh. C'est une espèce de fabulation sur... C'est une histoire C'est un théâtre qui cherche à embaucher plein de monde. Et on se dit, mais avec quels moyens et pourquoi faire? Et dans une période où les théâtres sont plutôt exsangues, ils ont plutôt tendance à fermer, là, c'est, alors, c'est d'ailleurs, il le dit, dans le théâtre ne cesse de s'agrandir chaque jour. Et il embauche. Et c'est un théâtre qui embauche, qui fait des parades dingues pour embaucher plein de... On se demande pourquoi. Ça sent un peu... en même temps, alors, il y a des gens qui ont analysé un peu ce texte en disant que ça sent un peu les camps de concentration, déjà. Parce que Kafka était juif. Et... alors, d'ailleurs, dans la fin du roman Amérique, là, on pense qu'on n'a pas eu la fin parce que peut-être que la Gestapo montante vers les années 20-30, Kafka, il est mort en 24, mais son ami qui avait gardé des documents a été saisi. Et puis aussi, alors, son ami IE, l'ancien ami de Kafka, après son décès, elle a eu... Au début, elle était avec un juif, c'était Kafka, puis après, elle s'est mise en couple avec un communiste. Et pour les nazis, c'était beaucoup trop. Alors on pense que peut-être il y a des documents, des manuscrits qui ont été perdus.
Ah oui,
parce que...
Et tu dis que dans cette partie-là, le théâtre d'Oklahoma, il y a quelque chose qui fait penser au camp, déjà.
Oui, parce qu'ils partent dans un train, et c'est tellement fabuleux, c'est tellement ça nous paraît tellement mensonger et tellement trop beau, qu'on se demande où ils partent. C'est pas moi qui ai fait ce rapprochement, je l'ai lu plusieurs fois dans des analyses, comme s'il avait eu une espèce de prémonition de ce qui pourrait arriver, parce que en fait le père de Kafka était un commerçant en draperie, en vêtements, en chaussons aussi, en pantoufles, et il avait tout fait pour y arriver, c'est-à-dire pour
gagner des sous,
mais pour ne plus paraître comme juif. Et en fait Kafka, ils sont Kafka père et fils, c'était pas une histoire d'amour. Ils se sont... Kafka père n'a jamais compris son fils. Ouais. Ouais. Kafka est mort jeune, hein, il avait 37-38 ans.
Il aperçut à l'autre bout un homme qui allait et venait, qui attendait sans doute les gens impatiemment pour leur donner tous les renseignements nécessaires. Karl allait déjà se diriger vers lui lorsqu'il s'entendit appeler par ton nom. « Karl !» criait un ange. Karl leva les yeux et éclata de rire dans la joie de la surprise. C'était Fanny. « Fanny !» cria-t-il en lui envoyant un bonjour de la main. « Mais viens donc ici !» hurla Fanny. « Tu ne vas tout de même pas filer sans t'arrêter ?» Et elle releva ses voiles. Découvrant ainsi le piédestal et un petit escalier par lequel on accédait en haut. « Est-il possible de monter ?» demanda Karl. « Qui nous empêcherait de nous serrer la main ?» dit Fanny d'un air courroucé de peur que quelqu'un n'essayât. Karl lui montait déjà. « Pas si vite !» hurla Fanny. « Autrement, nous allons tomber, tous deux avec le socle. » Mais ce malheur n'arriva pas. Et Karl parvint son accroc jusqu'à la dernière marche. « Tu vois ?» Quel travail j'ai trouvé, lui dit Fanny après les premières salutations. Il est magnifique, fit Karl en jetant les yeux autour de lui. Même femme s'était arrêtée de souffler pour les regarder. Je t'ai vu tout de suite, expliqua Fanny, mais je suis malheureusement au dernier rang et on ne me voit pas. J'ai bien soufflé le plus fort que j'ai pu, mais tu ne m'as pas reconnu. « Laisse-moi essayer !» dit Karl. « D'accord, » répondit Fanny, « mais ne va pas saboter le cœur, autrement on me renverrait. » Et Karl se mit à souffler. Il s'était attendu à quelque grossière
trompette simplement destinée à produire du vacarme. Mais il s'aperçut que l'instrument pouvait donner les plus subtiles nuances. Si toutes ces trompettes étaient aussi savantes, on en faisait un grand abus. Karl souffla à plein poumon l'air d'une chanson qu'il avait entendue dans il ne savait plus quelle auberge. Il était heureux de jouir du privilège de jouer d'un instrument, d'avoir retrouvé une vieille amie et d'avoir une belle situation en perspective. Maintes femmes s'arrêtèrent pour l'écouter, et lorsqu'il cessa, il n'y avait pas la moitié des instruments qui fussent encore en activité. Le rat fut complet, ne revint que petit à petit. « Mais quel artiste !» lui dit Fanny lorsqu'il rendit l'instrument. « Mais fais-toi engager comme trompette !» Est-ce qu'on embauche donc des hommes aussi ? Demanda Karl. Mais certainement, répondit Fanny. Nous jouons 2 heures, puis nous sommes relevés par une équipe d'hommes déguisés en diable. La moitié joue de la trompette et l'autre moitié du tambour. C'est très beau, comme d'ailleurs tous les décors ici. Ils coûtent les yeux de la tête. Notre costume n'est pas joli lui aussi ? Elle laissait glisser ses yeux le long de ses voiles. « Mais est-ce que tu crois qu'on pourrait m'emboucher ?» redemanda Karl. « Mais certainement, répondit Fanny. C'est le plus grand théâtre du monde. À vrai dire, je ne l'ai pas encore vu, mais celles de mes collègues qui ont déjà été à Oklahoma disent qu'on n'en a jamais tout vu. »
Encore un extrait de Le théâtre de l'Oklahoma, selon Franz Kafka, notre invité du jour, Amédée Bricolo.
Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de... C'est la question peut-être qu'on pose toujours aux gens de théâtre ou aux clowns ou quoi. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui... de drôle, de grave? Peut-être que d'ailleurs, ça n'a... la question ne se pose pas comme ça, mais...
Moi, je pense que je suis...
joyeux, t'es quelqu'un de...
Non, je pense que je suis un peu inquiet, au fond. Mais je pense que je garde mon énergie du rire et du comique pour quand je joue. Je suis pas un bout en train dans les repas de copains et tout ça, encore que, bon, ça va, mais c'est Raymond Devos. Raymond Devos, les après-spectacles, il était très discret, et c'était son pianiste qui faisait le clown. Et Devos, il observait plutôt, ouais. Non, moi, je pense que je suis plutôt optimiste quand même, mais... Ouais, je garde mon énergie quand je joue. Ouais. Mais je suis pas un bout en train. Il y a des bouts en train comme ça qui sont. Et moi, je fais une trop. C'est pas la même énergie. Faire le gigolo à la fin d'un repas parce qu'on a bu avec des copains et faire un spectacle, ça n'a rien à voir. Et je mélange pas tout. Et non, je ne suis pas un bout en train comme ça. Je suis presque méconnaissable, je pense même.
Magda, qui fait partie de l'organisation du festival, dont, si j'ai bien compris, tu as fait la mise en scène du spectacle.
Avec plaisir, d'ailleurs.
Sur Marie Curie, me disait, il est rigoureux. C'est quelqu'un de très rigoureux.
Je pense que... Ouais, je dois être encore plus rigoureux avec les autres qu'avec moi-même. Mais je pense que c'est des métiers où il faut qu'on soit très précis, très rigoureux, très... ouais, c'est pas une plaisanterie. C'est bêtaud de dire ça, mais le clown, c'est le contraire d'une plaisanterie.
C'est drôle de dire ça. Est-ce que tu saurais en dire plus? Comment ça, c'est pas une plaisanterie?
Parce que plaisanterie, c'est le côté comme ça, un peu amical, on fait des gags, on y en a, alors qu'il n'y a rien de plus scientifique. Le rire et le déclenchement du rire, c'est d'une fragilité, d'une précision. Je ne sais plus qui a écrit que le comique est aussi fragile que les ailes d'un papillon. Que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Et donc, il nous faut une extrême rigueur pour pas. Et c'est. Et je vais utiliser un mot très populaire, c'est pas une déconnade. Mmh. On ne déconne pas. Mmh.
Mais
on joue.
Quand je t'entends, il y a l'idée qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'il y a une grande précision, mais j'ai l'impression d'entendre aussi que c'est important.
Oui.
C'est important.
Très important. Parce que on doit essayer de. On doit essayer, hein, je ne dis pas que. Qu'on y arrive tout le temps ou que j'y arrive tout le temps, mais on doit essayer de donner au public mille fois plus que ce qu'ils sont venus chercher. On doit leur donner le meilleur de... Parce que c'est un moment de rencontre, ils ont pris sur leur temps, ils ont pris sur leur argent, ils viennent et... On doit leur en donner beaucoup plus que ce qu'ils attendent.
C'est pas pour dire, en quête de conte au festival Une autre histoire à Orléans.
Tu reviens là juste du conservatoire, est-ce que ça veut dire que tu es concerné par la transmission? Comment tu te
par rapport à ça? Je pense que c'est important, à la fois humainement, leur montrer qu'il y a toujours qu'il y a un ailleurs, qu'on est capable de toujours de faire autre chose que de travailler... dans le commerce et l'industrie, et qu'on est aussi là pour apporter une espèce d'oxygène de la vie au public, et que moi je leur dis que c'est le plus beau métier du monde. Je leur dis, plusieurs plus beaux métiers du monde, mais vous en faites un. Je leur dis aussi qu'on travaille sur l'humain, et que c'est des métiers très rares, quoi. On donne pas de médicaments, mais on soigne autrement, on donne... On apporte un ailleurs, mais je pense pareil que la littérature ou que le cinéma. Ou...
S'il y avait une chose vraiment que tu as envie de transmettre, que les gens que tu rencontres, là tu dis, ils ont 17 ans, 24 ans, qu'est-ce que ce serait le plus important dans ce métier humain que tu aurais envie de leur transmettre?
Dans ce métier, c'est que la vie est belle, c'est à nous de la rendre belle. Et qu'on peut, avec des petites choses et des petits moyens, enjoliver la vie. Et que le spectacle vivant, c'est une rencontre très rare. Et qu'il faut privilégier ce contact-là. Et qu'on n'est pas là. Alors, le fin mot de l'histoire, c'est qu'on n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut penser. Et là-dessus, je suis très catégorique avec mes élèves. Mais qu'on doit... On doit leur donner matière à s'interroger. On n'est pas là pour apporter des réponses, on est là pour poser des questions qui, sous forme même des fois de comique, n'importe quoi, mais on est là pour donner à penser, pour interroger. Et on met le doigt sur des choses qui sont des fois pas vues par eux, quoi. C'est-à-dire, on pose une espèce de loupe sur un petit... petite chose comme ça, puis on pose la question. Mais on n'est pas là pour dire ce qu'il faut penser. Moi, là-dessus, je n'aime absolument... Je pense que j'ai des idées politiques, mais je n'aime absolument pas le théâtre Je pense que tout est politique. Hein. Je sais que j'ai des collègues hein, qui montent des spectacles politiques où on leur dit, où on dit au public ce qu'il faut penser. Ouais. Et ça ne m'intéresse, mais alors, strictement pas. Mais je pense que tous les spectacles sont politiques au sens grec du terme, c'est-à-dire au sens noble du terme, la vie en société.
Tu as une responsabilité, un engagement, tu dis, je fais pas n'importe quoi. Et je m'engage pas à ce qu'ils vont recevoir, mais à ce que je leur donne déjà.
En fait, c'est même pire, c'est même plus pervers que ça, dans le sens noble. C'est que, en fait, moi, je leur donne rien. Je pars du principe que je propose des choses, mais c'est eux qui viennent se servir. Je leur apprends rien, mais ils viennent se servir. Je leur propose des situations, des choses comme ça, et c'est eux qui apprennent de moi. Mais moi, je leur apprends rien.
Quand on lui demanda s'il avait été sans place, Karl répondit par un simple non. « Quel était votre dernier poste ?» demanda le monsieur. Karl s'apprêtait à répondre quand l'autre leva l'index et répéta « Votre dernier, hein ?» Karl avait très bien compris la première fois. Il repoussa machinalement d'un mouvement de la tête cette observation qui l'embrouillait. Il répondit, dans un bureau. C'était d'ailleurs la vérité, mais si le monsieur venait à demander des renseignements sur la nature de ce bureau, il se verrait contraint de mentir. Mais le monsieur ne demanda pas cela et se contenta d'une question à laquelle il était facile de répondre franchement. En étiez-vous content ? Non ! Cria Karl si précipitamment qu'il faillit couper la parole au monsieur qui l'interrogeait. Un regard de côté lui montra que le directeur souriait légèrement. Il regretta alors la hâte irréfléchie de sa réponse, mais ce nom avait été trop tentant. Karl avait passé sa vie, pendant son dernier poste, a appelé de ses désirs un employeur étranger qui entrerait dans le bureau pour poser cette question. Et il s'apercevait maintenant que sa réponse pouvait lui jouer un mauvais tour. Le monsieur n'avait qu'à lui demander les raisons de son mécontentement. Mais il ne le fit pas et demanda simplement « Pour quel genre de poste vous sentez-vous fait ?» Pareil, cette question pouvait vraiment contenir un piège. Et pourquoi la posait-on à Karl, puisqu'il était déjà engagé comme acteur ? Cependant, il avait beau voir l'écueil, il ne pouvait se contraindre à répondre à autre chose. « Je suis engagé comme acteur. » dit Karl avec hésitation pour faire comprendre à ce monsieur toutes les difficultés que posait pour lui une telle question. « C'est exact !» dit le monsieur qui se tut à nouveau, montrant par son silence qu'il maintenait sa question. « Eh bien, je suis engagé comme acteur et je tâcherai d'exécuter tout ce qu'on va me demander, » dit Karl. Le monsieur se tourna vers le directeur, ils inclinèrent la tête tous deux. Karl semblait avoir trouvé la bonne réponse. Il reprit courage et attendit de pied ferme la question suivante.
Quel genre d'études vouliez-vous donc faire au début ?
Demanda le monsieur. Et il ajouta,
en Europe, j'entends.
En même temps, il fit un léger mouvement de la main comme pour indiquer combien cette Europe était lointaine et insignifiant les projets qu'on avait pu y former autrefois. Je voulais devenir ingénieur, dit Karl. Il lui répugnait bien de répondre ainsi, car il lui semblait ridicule après ce qu'avait été jusqu'alors sa carrière américaine, de réchauffer devant ces messieurs le souvenir de ses ambitions de jadis. Y fut-il parvenu même en Europe.
Cependant, il ne pouvait trouver d'autre réponse. Il était contraint de faire celle-là. Le monsieur l'a pris d'ailleurs très au sérieux puisqu'il ajouta « Ingénieur, vous ne pouvez pas le devenir ici tout de suite, mais peut-être aimeriez-vous, provisoirement, vous occuper de quelque travail de mécanique subalterne ?»
Oh, certainement, fit Karl enchanté.
S'il acceptait, il cesserait bien évidemment de faire partie des acteurs pour tomber chez les machinistes. Mais il pensait sincèrement pouvoir faire beaucoup mieux dans ce nouveau rayon.
Êtes-vous assez fort pour les gros travaux ?
Demanda le monsieur. Là-dessus, il fait venir Karl près de lui et lui tâta le biceps.
Ah, c'est un solide garçon !
Déclara-t-il ensuite en le menant Karl par la main auprès du directeur.
Celui-ci tendit la main à Karl sans changer de position et déclara
« Eh bien, vous êtes engagé par le théâtre d'Oklahoma et vous allez être présenté à notre directeur. »
Le théâtre de l'Oklahoma, selon Franz Kafka, enregistré au festival Une autre histoire.
Évidemment, il n'y a pas de formule magique, mais quand même la question, c'est comment tu fais dans une époque où les gens sont quand même très habitués à consommer, à venir prendre, à ce qu'on leur donne dans la main, du tout mâché, du tout fait, du tout là. Comment tu fais pour qu'ils restent actifs et qu'ils viennent se servir réellement ?
Je pense qu'il faut, il faut qu'on cultive l'art de la joie de faire, l'art de la joie de jouer. Et il y a eu trop de périodes où les metteurs en scène, où les profs étaient des méchants, des salopards, qui cassaient les élèves et tout ça. Et moi, je pars du principe que mes élèves, entre guillemets... D'abord, le mot conservatoire m'agace. Moi, je dis qu'il ne faut plus l'appeler conservatoire parce qu'on conserve rien. Alors, il y a un écrivain dont j'ai oublié le nom qui appelle ça un embarcadère. Et moi j'aime bien cette idée-là, c'est un embarcadère. Et on ne sait pas où on s'embarque, mais on s'embarque et on cherche. Je leur dis, vous êtes des chercheurs d'or, on ne va pas trouver à chaque fois, mais on cherche. Et ma théorie c'est que ces jeunes qui viennent doivent sortir, après 3 heures, on a 3 heures de cours ensemble, après 3 heures ils doivent sortir plus heureux qu'en arrivant. C'est prétentieux, mais je pense que j'y arrive. Je pense que j'y arrive, ouais. Mais c'est une ligne qu'on doit avoir, enfin, que moi je me donne. Je pense que la vraie pédagogie, c'est ça. C'est faire de la pédagogie sans le dire, sans l'expliquer, mais donner envie d'eux.
Et dans ton rapport au public, tu fais quelque chose d'un peu similaire ? Quand tu dis je leur donne rien, mais j'attends qu'ils viennent.
Oui. Je pense qu'il faut. Enfin, pas dans tous les spectacles, parce que dans les spectacles de clowns, de comédia dell'arte, on va vers le public, on donne beaucoup. Mais la vraie force du théâtre, c'est pas quand nous, les acteurs, on descend vers le public, c'est quand le public est aspiré. On en revient à cette histoire d'hameçon, là. C'est quand le public, il est embarqué, il est un peu bouche bée. Bouche bée, c'est une image, mais...
Ravi.
Ravi, oui, il est pris, quoi. Il est pris à l'hameçon. Et c'est, à ce moment-là, c'est lui qui monte. Mais ça, cette théorie-là, je ne l'invente pas. Hein, c'est aussi la théorie de l'opéra de Pékin. C'est-à-dire que le plexus est là, et l'acteur est un peu comme une espèce de soleil. Et on est, c'est l'opéra. Et nous, on a un peu perdu tout ça. Moi, l'opéra de Pékin, ça reste quelque chose de fantastique pour moi.
Pendant que tu en parles, tu me montrais le plexus comme un centre rayonnant, oui, et attractif.
C'est, voilà, on ouvre, ouais. Mais il y a des chakras, il y a aussi toute la respiration, il y a nos côtes flottantes. Je fais chier mes élèves avec les histoires des côtes flottantes. Je leur dis, les dieux nous ont bien fabriqués. Je leur raconte des salades comme ça pour prendre. Parce que en fait, je m'aperçois, qu'au fond, à part leurs profs et puis leurs parents, leurs profs au lycée ou en fac, ils n'ont pas de contact avec les adultes. Ouais. Et moi, je suis assez âgé, je pourrais être leur grand-père.
Tu dirais que tu es un adulte.
Oui, je pourrais être leur grand-père et je suis une espèce de d'électron libre là, qui les provoque un peu. Pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Ouais. Je vais aller m'installer, moi.
Et en tout cas, merci pour ce moment-là.
Nous allons maintenant laisser Amédée Bricolot se préparer pour son spectacle. Et donc, notre émission se termine. Un grand merci à l'auteur qui nous a emmenés dans son univers. Un grand merci à la conteuse qui a recueilli sa parole. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.c'estpaspourdire.fr. Nous envoyer des commentaires et des suggestions sur la page Facebook de l'émission. Ciao à tous! I still have a dream.